L'affirmation est connue et souvent fausse. Pour tordre le cou aux clichés et en savoir plus sur la vraie vie des critiques et journalistes spécialisés, le plus simple était encore d'en recevoir un. Christophe Narbonne, bonsoir.
Bonsoir.
Christophe, tu as une longue carrière de critique cinéma ou journaliste spécialisé, on va voir. J'utilise les deux termes de façon indifférenciée, mais peut-être que tu as une préférence, on va le...
Journaliste, oui.
C'est déjà très bien.
C'est bien. Ouais.
Tu as officié pendant, il me semble, 25 ans ou pas loin pour le compte du magazine Première.
23 ans, oui.
23 ans, exactement. Mmh. Tu as, qui était... un des plus gros, si ce n'est, j'ai peur de dire, mais le plus gros en termes de tirage.
Le plus gros, à une époque, c'est toujours le plus gros en termes de tirage, même si les ventes ont singulièrement baissé, mais dans les années 80, de sa création à la fin des années 70 jusqu'à aujourd'hui, ça a toujours été le plus important tirage en ce qui concerne les magazines de cinéma.
D'accord. Donc effectivement, on va le voir pendant l'émission, depuis, d'abord depuis les années 70 et même depuis les années 90, la fin des années 90, date à laquelle toi tu as rejoint le journal, le magazine, la presse a beaucoup changé, l'industrie, les pratiques ont beaucoup changé, on aura l'occasion d'en rediscuter. Mais pour commencer de façon un peu plus simple par le commencement, finalement j'allais dire comment on devient journaliste, et a fortiori journaliste cinéma, mais... toi, en tout cas, comment ça s'était fait ?
Alors, dans mon cas, c'est vraiment un pur hasard. En fait, c'est une suite de hasards et coïncidences heureux. Moi, je suis rentré dans le groupe Lagardère qui s'appelait à l'époque, qui s'appelle toujours le groupe Lagardère, même si maintenant il est très très réduit. Qui n'est plus propriétaire de Première depuis longtemps, d'ailleurs depuis 2014, mais qui a été démembré encore plus depuis. J'y suis rentré moi par la petite porte. Je suis rentré au service généraux de Lagardère.
D'accord.
Parce que j'avais 24 ans à l'époque, j'avais pas de boulot et j'ai eu une opportunité un été pour faire un remplacement. Ils venaient de s'installer au pont de Levallois. Donc j'ai fait ça pendant un an. À la fin de ma première année, avant l'hiver, comme un cadeau de Noël, je suis allé démarcher sur les conseils d'amis, je suis allé démarcher la rédaction de Vidéo 7,
d'accord,
qui est un journal qui n'existe plus, qui était consacré à la vidéo, mais aux cassettes à l'époque encore.
Oui, c'était tout ce qui concernait, alors on ne parlait pas de DVD, mais c'était la VHS, et
ouais.
Plus que le cinéma, c'était les films qu'on regardait chez soi. Les
supports, ouais, c'était la culture populaire, on va dire,
ouais.
En gros.
Vidéo 7.
Ouais. Et donc j'ai branché, si j'ose dire, le directeur et le rédacteur en chef du journal, qui m'ont fait faire mes premières, je vais pas rentrer dans les détails, mais qui m'ont fait faire mes premières piges dans la foulée. Donc bon an mal an, pendant un an j'ai fait les deux activités, l'une pour laquelle j'étais salarié et l'autre pour laquelle j'étais pigiste. Et au bout de plusieurs mois, on va dire 8-9 mois de ce régime-là, j'ai quitté les services généraux et je suis devenu ce qu'on appelle pigiste permanent, qui est un terme barbare en fait, presque antagoniste. Je suis devenu pigiste permanent chez Lagardère et chez Vidéo 7 en particulier.
D'accord.
Et si tu veux savoir comment je suis arrivé à la première, en fait, pendant 4 ans, j'ai fait ça.
D'accord.
Avec d'autres piges ici et là, dans un journal qui s'appelait TV Hebdo aussi, par exemple. Et en 98, le journal Vidéo 7 n'allait plus très bien, concurrencé par l'émergence du DVD et des journaux DVD qui ont soudainement fleuri, poussé
DVD
Vision, DVD Mag, DVD Mania, qui ont tous disparu. Mais du coup, Vidéo 7, qui était tout seul sur son marché, s'est vu attaqué par, je sais pas, une dizaine. Et le groupe a décidé de tenter de relancer le journal qui était en train de mourir avec l'équipe de Première qui était alors à son sommet. C'était le grand Première, ce qu'on considère comme la grande période de Première. Et ça n'a pas marché. En fait, il y a eu 4 numéros avec l'équipe de Première, mais le changement était tellement brutal, on passait d'un journal très populaire à un journal un peu branché, urbain, etc. Et la mayonnaise n'a pas pris, et au bout de 4 numéros, ça s'est arrêté. Et quand ça s'est arrêté, il était question de savoir où allaient être dispersés les gens de Vidéo 7. Et moi, un autre journaliste et un maquettiste avons été conservés sur Première.
D'accord.
Toujours en pige permanente.
Donc ça, c'était en quelle année ? Fin des années 90 ?
Ça, c'est fin 98, ouais.
D'accord.
On a intégré l'équipe de Première début 98. Les 4 numéros ont eu lieu de septembre à décembre 98. Et donc, la fin de Vidéo 7 a été actée en janvier 99. Je ne sais pas, j'imagine. Et voilà, après, on a commencé à bosser pour Première.
D'accord. Et toi, tu parlais justement de hasard et de coïncidence, mais est-ce que... c'en était vraiment, ou le fait de rejoindre des magazines et des publications qui étaient dédiées au cinéma, c'était pas tout à fait une coïncidence non plus. Toi, le cinéma, est-ce que ça avait toujours, tu avais toujours été fan, ça a toujours fait partie de ta vie d'une façon ou d'une autre?
Ça avait du sens, en effet, parce que je ne l'ai pas dit préalablement, mais moi, j'ai fait une maîtrise de cinéma, justement. D'accord. J'ai fait une licence de communication et après une licence maîtrise de cinéma à Jussieu à l'époque, ça s'appelait ECAV, études cinématographiques et audiovisuelles. Donc, je n'avais pas enchaîné avec un DEA parce que j'avais fait ma maîtrise sur les Marx Brothers à Jussieu et j'avais voulu faire mon DEA logiquement sur les Monty Python. Qui sont un peu leur fils spirituel. Et à l'époque, il faut savoir, c'est un de mes grands combats entre guillemets, mais il faut savoir qu'à la fac, notamment dans le milieu universitaire, dans le milieu intellectuel, tout ce qui est lié un peu à la culture populaire n'est pas vraiment, en tout cas, n'était pas vraiment à l'époque très valorisé. Ouais. Donc quand j'ai vu Jean-Pierre Thoroc, qui était une figure de Censier Paris 3 à l'époque, et que je lui ai parlé de mon projet sur les Monty Python, il m'a rayonné, il avait un poster des Ailes du Désir derrière lui, de Paris, Texas, de je sais pas quoi, ou de choses plus sérieuses, on va dire. Et donc, il m'a rayonné, et je n'ai pas fait de DEA, et mon destin en a peut-être été changé à cause de ça.
Et donc, justement, là encore, si on prend le fil antichronologique, pour le dire comme ça, toi, tu as toujours été fan de cinéma. Tu parlais à l'époque de la VHS, c'était les années VHS et magnétoscope. Tu as écrit un roman, on y reviendra un peu plus tard. Il y a de nombreuses pages de ton bouquin sont consacrées aussi à cet éveil, à l'éveil cinématographique par ce biais-là. Et toi, finalement, tu as toujours été fan de cinéma. Est-ce que tu as toujours su que tu voulais en faire, ou en tout cas que ça aurait ou être critique, ou que ça prendrait une part importante dans ta vie?
Alors, pas du tout. moi, je viens d'un milieu très peu cultivé, où mes parents ne lisaient pas. Mon père lisait que la seule lecture qu'il a eue dans sa vie, c'était L'Équipe. Ma mère lisait des SAS. On n'allait jamais au théâtre, on n'allait jamais au cinéma. Donc, c'est pas né dans la petite enfance et même dans la jeunesse. Mmh. C'est vraiment né à la fac, en deuxième année de communication. J'avais une UV sur le cinéma et je traînais avec deux potes qui étaient très fans de cinéma. Donc j'ai commencé à m'intéresser. J'ai commencé à m'intéresser au cinéma par l'histoire du cinéma et par la technique.
D'accord.
Parce que l'UV portait là-dessus. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à aller voir de vieux films. Mais sinon, moi, je suis un enfant d'Eddie Mitchell et de La Dernière Séance, en fait. C'est ma génération. Donc, comme tous ceux de ma génération, on a été imprégné de vieux cinéma, de cinéma westerns, classique, les westerns, etc., dont je suis fan. Donc merci Papa Eddy. Et donc moi j'ai grandi avec cette culture là et après quand j'ai commencé à m'intéresser au cinéma avec mes VHS, j'enregistrais le cinéma de minuit, le ciné-club de France 2, etc., d'Antenne 2. Bref,
Patrick Brion à l'époque, il me semble qu'il...
Patrick Brion, Claude Jean-Philippe, et Patrick Brion c'était sur la 3 et Claude Jean-Philippe c'était sur la 2.
D'accord.
Et que je dise pas de bêtises. Et donc voilà, mais sinon moi j'ai la culture populaire. C'est-à-dire que j'ai grandi avec les Louis de Funès, avec L'As des As, avec Jean-Paul Belmondo, avec toutes ces bêtises-là, si j'ose dire. Le film du dimanche soir de TF1, quoi, en gros.
Ouais, bien sûr.
Voilà.
Et après, finalement, tout le reste de ta cinéphilie, tu l'as découvert plus tardivement.
Elle s'est construite plus tardivement, à partir de ma deuxième, troisième année de fac, où là, j'ai commencé beaucoup à traîner au Quartier Latin. Encore une fois, Génération VHS, j'enregistrais beaucoup de films à la télévision. Après j'en louais, après on est passé au DVD, j'en achetais, et quand je suis devenu évidemment critique, journaliste de cinéma, j'ai pas arrêté d'en regarder, en fait.
Bien sûr. Voilà. Et justement, tout à l'heure, tu évoquais, tu disais, toi, quand tu as rejoint Première à la fin des années 90, c'était encore la période faste du magazine. Et je pense que, sans faire trop de généralité, c'était une période faste pour la presse de façon générale, et même déjà la presse papier d'une part et la presse ciné. J'allais dire, c'est la formule est connue, mais c'est un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Et finalement, à quoi ça ressemblait? C'était parce que c'était aussi une période, en plus, avec vous étiez un magazine mainstream, ce qui est surtout pas une, ce qui est surtout pas un reproche, mais justement délibérément plus mainstream ou populaire que d'autres publications. Je pense notamment au Cahier du Cinéma, à Positif, et donc vous étiez très présent même sur le Festival de Cannes, des grandes manifestations. Finalement, c'est quoi la vie quotidienne d'un journaliste cinéma dans ces années-là?
Dans ces années-là, déjà, il faut savoir qu'on appartenait à un énorme groupe. Lagardère, c'était le premier groupe de presse français. Première était l'un des titres phares aux côtés de Paris Match, Elle et Télé 7 jours, par exemple. Donc, c'est, moi, j'ai été très impressionné quand je suis arrivé à Première. Mmh. Il faut savoir qu'à l'époque, Première était dirigée par quelqu'un qui s'appelait Alain Kruger, qui est une figure en fait, de la presse cinéma et du cinéma en, en général. Il est devenu ensuite producteur, il a produit un ou deux films de mémoire. C'est aussi un homme de radio, etc. Et c'était un homme de presse, un vrai homme de presse qui avait créé plein de journaux, qui avait été à la tête d'autres journaux avant, avant Première et qui était un peu le fils préféré de Philippe Aki, le directeur de, du groupe Lagardère Philippe Aki. Et c'était vraiment une sorte de prince de la presse.
Et ça Citizen Kane, c'est un peu l'image d'Épinal qu'on a.
Ah, exactement, et sa rédaction était à son image. Elle était composée vraiment de gens extrêmement brillants. Je les salue s'ils m'écoutent. Mais c'était très, très impressionnant d'arriver là et de côtoyer des gens comme Diastème, qui est devenu cinéaste.
Bien sûr.
Éric Libio, qui est devenu rédacteur en chef culture à L'Express, Christophe Carrière, qui a une personnalité médiatique maintenant, Gilles Verdiani, qui est quelqu'un de très brillant. J'ai peur d'en oublier Alain Kruger, évidemment, son frère Jean-Yves Catelan.
D'accord.
Il ne faut pas l'oublier, qui était le rédacteur en chef de Première. Alain était le directeur de la rédaction et son frère Jean-Yves était une personne éminemment brillante aussi. Donc, arrivé là où il y avait tous ces gens, j'oublie Stéphanie Lamôme, avec qui j'ai quasiment débuté, elle était là un petit peu avant moi, et qui était la seule fille de la rédaction, donc il ne faut pas l'oublier, et qui était pareil, brillante, et qui maintenant est dans l'organigramme du Festival de Cannes.
Oui,
et
voilà,
qui
est
voilà. Et donc, c'était, je dois avouer que moi, la première fois que je suis arrivé là, j'étais assez, vraiment très impressionné. En plus, Alain avait une posture assez comme ça, un peu distante, un peu...
Non,
il était plutôt chaleureux. Non, il était... c'était une équipe très soudée, vraiment. Et, mais il avait quand même, quand tu ne le connaissais pas, il pouvait passer pour quelqu'un de très impressionnant, vraiment. Intellectuellement, au niveau
intimidant,
de la séduction.
Un peu,
Voilà, au niveau de la séduction, du charisme, etc. Donc, je pense que j'ai côtoyé les derniers feux de la grande presse, quoi. Ça s'est vraiment barré en sucette, j'allais dire, au tournant des années 2000, avec l'arrivée du web, etc. On en reparlera, qui a vraiment déstabilisé et déstabilisé tout ça, quoi.
Et justement, ouais, c'est ça que j'allais te dire. À la fin des années 90, il y avait déjà la question. Je parlais de presse papier, mais à l'époque, c'était la seule presse dont on parlait, puisque le digital était balbutiant. On va pas refaire toute l'histoire du web, mais c'était encore avec les modems, c'était très compliqué de se connecter. Tout le monde n'avait pas de connexion, c'est encore pas le cas aujourd'hui, mais une grande majorité de foyers quand même, je pense. Et justement, c'est ce que tu dis, ça a été bouleversé par l'arrivée d'Internet, l'idée de sites qui sont spécialisés, des sites comme Rotten Tomatoes, spécialisation dans la notation, et aussi l'idée, et moi je sais que c'est mon cas, l'idée aussi que j'allais parler de démocratisation de l'exercice, c'est-à-dire que chaque personne pouvait monter un petit blog, un petit site et faire la même chose avec la même qualité, c'est une chose, mais en tout cas reprendre l'exercice que vous faisiez de façon un petit peu dont vous aviez un peu le monopole jusqu'ici, c'est ça qui est venu tout chambouler aussi.
Exactement. Il y a une autre chose que je voudrais évoquer, parce que qui a été déterminante aussi, c'est que Alain, justement, qui était quelqu'un de très fin et qui sentait le vent tourner, avait proposé d'emblée en 2000 à la rédaction à la direction de Lagardère de créer un site. Donc, il y a eu un site Première qui a existé pendant un an et demi de 2000 à 2001, avant Allociné, qui est né en 2004, si je ne me trompe pas, ou 2003. Bon, bref, et qui était le seul site sur le cinéma existant. Et puis en 2001, encore une fois, si je ne me trompe pas, le groupe a décidé unilatéralement d'arrêter tous les sites qui ne rapportaient pas d'argent et dont, pour lesquels ils ne voyaient pas d'avenir à moyen terme avec des rentrées d'argent, etc. Donc ils ont tout coupé, ils ont coupé les robinets. Ça a beaucoup chagriné Alain à l'époque, je me souviens, parce que Alain avait la prescience que c'était l'avenir. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Allociné a pris la place qu'on n'a pas occupée. Et sur Internet, comme tu le sais, et tout le monde le sait, c'est le premier qui dit qu'il y est, quoi. Mmh. Donc, Allociné...
Le du pionnier.
Voilà. Alors que c'était nous, les pionniers, en fait. Mais bon, Allociné a pris la place vacante. Et quand on est revenu au site Internet au sein du groupe Lagardère, c'était en 2004-2005, de mémoire, 2004 peut-être. Ouais, Allociné, ça doit être 2003. Et la place était prise et on n'a jamais réussi à combler le retard. Mmh. Encore aujourd'hui, le site premier, je crois, est toujours deuxième des sites d'actualité ciné derrière Allociné. Ouais. Mais il y a 5-6 millions d'écarts.
Il y a un écart quand même.
Il y a un écart qui est colossal.
Et justement,
qui est irrattrapable.
Ouais, c'est vrai. Et puis, que ce soit pour. J'allais parler d'annuaire, c'est un peu, le terme est un peu vieux, mais d'annuaire des séances pour consulter les séances, ouais. Pour voir les notations qui sont mises. C'est vrai qu'Allociné, c'est resté. C'est un site majeur. Et justement, vous. Comment vous le sentiez, vous saviez, tu disais que Alain Crugère disait que présentait que c'était l'avenir. Comment vous le voyez ça? C'était une menace, une opportunité?
C'était bizarre parce qu'au début, dans le groupe chez Lagardère, les activités digitales et écrites étaient vraiment séparées. Il avait embauché une équipe dédiée pour le site et ça a été comme ça dans le groupe, même encore jusqu'à aujourd'hui. C'est un peu comme ça que ça se passe, c'est-à-dire qu'il y a des équipes dédiées. C'est assez cloisonné. Les équipes de la presse écrite, ont, en tout cas chez Lagardère, ont toujours pas dédaigné, mais ont toujours, en tout cas, hésité à aller sur le digital, qui était plus impur, moins noble, etc. Je peux comprendre hein, ça quand on est des vieux de la vieille.
Nous, de génération.
Ouais. Alors nous, on l'était pas forcément, mais moi, j'étais pas si âgé que ça, donc moi, j'ai pris le pli par la suite, mais ça, c'est une autre histoire. Mais effectivement, moi, jusqu'en 2014, à peu près, je faisais très, très peu de web. Mmh. Je faisais que du print.
Mmh. Et oui, pardon. Et donc, toi, justement, au cours des 25 ans que tu as... 23 ans, pardon, puisque tu disais que tu as passé... Les chiffres sont importants. Ouais. Que tu as passé chez Première, justement, les évolutions majeures que tu as vues, outre ce qui peut être lié à la technique et même par rapport à Internet, à la démocratisation ou à la diffusion de ça, y compris du cinéma, qu'est-ce qui a changé finalement?
Ce qui a changé, c'est... un des facteurs qui est à l'origine de la crise aujourd'hui, c'est la pub. La pub qui achète de moins en moins de pages et plutôt à moindre coût si elle peut. Donc ça, c'est un vrai problème majeur pour la survie de la presse. Depuis 20 ans, c'est vraiment un gros problème structurel, on va dire, pour l'équilibre de la presse. Donc ça, j'ai pu l'observer au niveau par exemple, alors moi, je parle de ce que je connais, hein, du cinéma. Au niveau des films, des productions des films, etc., on sent bien depuis plusieurs années que la presse n'est plus privilégiée par les attachés de presse, par les sociétés de distribution, etc. Moi, on me l'a dit, il y a 10 ans à Cannes, on m'a dit que... Première n'était plus dans la shortlist des médias importants pour les attachés de presse, quoi, il y a 10 ans. Hein.
Ouais.
Donc imagine aujourd'hui.
Ouais.
Donc tout ça crée effectivement à la fois une paupérisation et un manque de rayonnement de la presse. Alors, qui s'explique par plusieurs facteurs, la concurrence d'Internet, la désaffection des gens pour la presse écrite.
Bien sûr.
Pour la lecture, pour le temps long, pour tout ce qu'on veut. Moi, je vois, j'ai des enfants assez grands et je vois qu'en deçà de 30 ans, les jeunes ne lisent plus ou très peu. La marque première, parfois même, il y a des 35 ans, ils ne l'identifient même plus.
Donc, son cachet de façon.
Ça a perdu de son cachet, de son aura. Et puis la diffusion a baissé de façon colossale. Donc c'est devenu un petit magazine, Première aujourd'hui. Alors qu'il y a encore 20 ans, on était à 200-300 000 de ventes. Aujourd'hui, on fait 10 fois moins, à peu près.
Mais en plus, je sais que Première, pour avoir été lecteur à l'époque, j'avais suivi ça, c'est vrai que... mais là encore, c'est pas une exception. Il y avait eu des nouvelles moutures qui avaient été faites, des nouvelles formules, et puis j'ai l'impression que le groupe et que la direction cherchaient un petit peu son...
Le problème, quand Alain est parti en 2001, avec toute son équipe quasiment, Alain a été à la tête du journal de 93 à 94, je crois, à 2001, donc 7 ans, un septennat. Et derrière, il y a eu au moins 4-5 rédacteurs en chef différents sur les 20 dernières années. Ça veut dire que ça fait une moyenne de 4 ans à la tête du journal. Tous les 4 ans, ça change, quoi, en gros. C'est beaucoup pour installer un ton, rythme, un style, pour installer une équipe. Même les équipes ont changé au gré des plans sociaux au sein du magazine, au gré des reventes, parce qu'on a été revendu deux fois, nous, depuis. On a été revendu une fois en 2014 à un groupe belge. Et en 2016, un groupe français qui a toujours première, qui s'appelle Ile Lagarde.
Donc, c'est le groupe qui possède le film français.
Le film français, exactement. Et donc, tout ça a fait que les équipes ont mué, ont changé. Depuis 2014, l'imbrication entre digital et presse écrite au sein de première est normale. C'est-à-dire que tout le monde fait et l'un et l'autre. Donc, de ce point de vue-là, c'est plutôt bien. Mais il y a le site est quand même assez différent du journal, donc c'est un équilibre qui est pas facile à trouver, parce que le journal se veut quand même toujours un tout petit peu pointu,
sans pour autant être élitiste,
mais porté quand même sur des films du tiers monde ou de cinéma émergent, alors que le site c'est vraiment plus des news populaires que sur lesquelles les gens vont cliquer,
davantage,
etc.
Donc
c'est des fonctionnements qui sont
c'est
pas les mêmes ressorts, c'est pas la même écriture, c'est pas la même vitesse d'écriture, c'est très différent. Donc c'est pas évident de trouver la bonne formule.
Et toi, tu disais justement de passer du papier au numérique. Tu dis que tu as pris le pli. Toi, comment ça s'est passé? Ça a été difficile, justement. À un moment, on vous a dit parce qu'il y a beaucoup d'écriture sur Internet qui est motivée par ça, l'idée de faire du clic aussi derrière. Alors que c'est vrai que le magazine première ou un autre, on l'a entre les mains, on l'a payé une fois et puis on ne clique pas après sur chaque article pour continuer la lecture.
Bah, j'allais te dire qu'au bout de 25 ans de métier, en fait, tu sais écrire. Tu connais ton métier, tu connais plutôt bien le cinéma.
Normalement.
Donc tu sais écrire et tu sais t'adapter. Ça, il y a aucun problème pour ça. Et le problème, c'est l'accumulation des tâches, c'est l'accumulation des supports. Nous, à la fin, c'est toujours le cas aujourd'hui pour mes collègues qui sont restés. À première, on faisait un journal mensuel, 3 ou 14 séries, le MOOC Première Classique qui existe depuis 2016. Le site, première est fournisseur de contenu du site du CNC. À une époque encore récente, on faisait le journal gratuit Gaumont Pâté.
D'accord.
Et on faisait aussi, on fait toujours, je crois, les pages chinées de West France chaque semaine.
D'accord.
Donc imagine, ça fait à peu près 7 ou 8 supports que tu fais en même temps. Donc, cette charge de travail, cette pression de rendu, et en plus, on demande de la qualité, n'est vraiment pas du tout évidente à tenir. Donc, c'est le problème quand tu es dans des plus petites structures. Par exemple, chez Lagardère, maintenant, c'est chez CMI. Je sais qu'ils ont conservé des habitudes beaucoup moins lourdes en termes de travail. C'est des groupes aussi avec qui sont très syndiqués, avec des quotas, des trucs à respecter. Ce qui n'est plus le cas, ce qui n'est pas vraiment le cas dans les plus petits groupes où la pression s'exerce de façon très rapide, pyramidale. Non, même pas pyramidale, mais on va de haut en bas très vite, quoi.
Ouais,
vertical.
Ce que tu dis à l'instant me fait penser à plusieurs choses que tu mentionnais avant. Tu parlais tout d'abord le statut un peu paradoxal, le titre un peu paradoxal de pigiste permanent. Tu parlais de la paupérisation. Est-ce que c'est ça aussi qui fait que les journaux ou même les sites spécialisés peuvent avoir du mal à recruter, parce que c'est des statuts pas particulièrement enviables, assez précaires, je pense.
C'est
fortiori quand faut habiter à Paris.
Ouais, j'ai un exemple d'un pote qui a été pigiste pendant longtemps pour nous et qui n'arrivait pas à vivre de ses piges pour nous. Il est parti, il fait autre chose maintenant. Mais c'est vrai que nous, on fonctionnait beaucoup avec des stagiaires qui bossent beaucoup sur le site, d'ailleurs. Et ils rêvent de devenir journaliste de cinéma. Mmh. Mais ils se rendent compte aussi que déjà, pour décrocher un CDI, ça va être dur. Et que vivre de la piche, ça va être compliqué. Et c'est vrai que ce sont des métiers qui, à la fois, se paupérisent et se raréfient parce que... faut vraiment, vraiment, vraiment être passionné pour se dire qu'on va en vivre, voire bien en vivre. Mmh. Aujourd'hui, ce sont des métiers... c'est compliqué. Moi, j'ai du mal à encourager les gens à le faire.
C'est ça que j'allais te demander. Est-ce que c'est justement des professions qui attirent de moins en moins de gens
Je crois que...
Il y a quand même cette... même si ça fait partie de ces métiers où ce que tu dis, il peut y avoir... même quand on débute sa carrière, même quand on a en tête l'idée de se dire il y a beaucoup d'appelés pour peu d'élus, est-ce qu'il y a quand même cette espèce d'étincelle où justement on a l'impression que ce sera nous l'élu qui fait que ça attire quand même des gens
Je sais que nous on avait des demandes de stage régulières et enthousiastes. Les stagiaires qu'on avait étaient tout le temps enthousiastes et étaient d'ailleurs même globalement plutôt bons. Ils étaient bien choisis aussi par les rédacteurs chefs. Et donc non, il y a une appétence, il y a une envie. Je pense que le journalisme au sens large conserve toujours une aura et qui ne se dément pas quoi en fait. Hein. Après peut-être que les jeunes d'aujourd'hui vont plus être attirés par les nouveaux médias ou par la télévision ou par YouTube ou je ne sais quoi d'autre.
C'est ça que j'allais te demander. Alors c'est une question un peu complexe. Il y a plusieurs facteurs, mais finalement le fait que un sujet qui était assez récurrent dont on parlait beaucoup, c'est la fréquentation des salles qui a jamais été aussi abyssale, pour le dire comme ça. Grosso modo, c'était un peu déjà le cas avant les confinements et c'est de plus en plus le cas maintenant. Les gens vont moins au cinéma, restent chez eux pour regarder sur les plateformes. C'est ce que tu dis avec l'émergence de plateformes. Je pense à des choses comme TikTok et souvent on privilégie des contenus de plus en plus courts.
Court,
ouais. Finalement, moi, ça m'intéressait aussi d'avoir ton idée. Finalement, ces évolutions-là, qu'est-ce que ça... Comment ça influe sur la cinéphilie ? Quelle cinéphilie il existe aujourd'hui ? Et pour les plus jeunes générations, c'est...
Écoute, je sais pas trop de quoi te répondre là-dessus parce que je suis pas un consommateur de TikTok, etc. Donc je me rends pas compte. Mais je vois que
tu parlais des plus jeunes générations qui lisent plus, qui sont nées, pour le dire comme ça, avec un téléphone dans la main, ce qui n'était pas le cas des générations précédentes. Donc c'est pas le même rapport non plus à la technique.
Je vois bien que mes enfants effectivement regardent beaucoup ces formats courts. On me dit qu'il y en a qui sont très bien. Après c'est le rôle aussi des aînés, des parents, d'éduquer leurs enfants à l'image. Moi je fais ça, mais parce que voilà, c'était mon métier.
Formation professionnelle.
Voilà, donc moi je les ai éduqués à l'image très tôt. Je leur ai montré des Hitchcock, des choses comme ça quand ils étaient petits. Je me souviens, j'ai regardé La Prisonnière du désert avec mon fils, il avait 10 ans. Donc ils sont éduqués à l'image, ils aiment ça. Ma fille, parfois, elle venait à côté de moi, je regardais un documentaire sur une petite fille africaine, elle se mettait à côté de moi et puis elle regardait, et puis elle regardait en entier finalement. Donc je pense que le rôle de passeur, il est dévolu voilà, aux aînés, aux gens qui connaissent et qui aiment le cinéma. Moi j'en parle beaucoup sur les réseaux sociaux par exemple, sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, j'en parle beaucoup. Et je vois qu'il y a des réactions de gens plus ou moins jeunes, quoi. Il y a vraiment tous les âges. Donc je pense qu'il y a toujours une appétence, un appétit pour la chose filmée. Je ne pense pas que ça va se perdre, j'espère pas. Après, c'est vrai qu'on observe que dans la proposition de cinéma, notamment américaine, on a l'impression d'un calibrage, d'une standardisation par Disney, notamment des contenus qui fait que peut-être que nos enfants vont manquer de pluralité. J'en sais rien, mais... Après, toutes ces questions-là, comme à chaque moment de crise, dans les années 50, c'était le passage, c'était la concurrence de la télé. Dans les années 80, c'était la concurrence de la vidéocassette. Aujourd'hui, c'est la concurrence du streaming.
Oui.
Y a toujours des moments dans l'histoire de l'image, du cinéma en particulier, où on s'est dit « Oh là là, catastrophe, le cinéma est mort ». Et le cinéma est toujours rené, pour faire un néologisme, de ses cendres. Donc moi j'y crois. Après c'est vrai que moi encore une fois je vois mes enfants qui regardent des séries sur leurs écrans mobiles Je me dis, oui, c'est quand même pas la même chose. Quoi. Mmh.
Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que moi, en tant que passionné de cinéma, c'est une réflexion que je m'étais faite aussi, de me dire, ah là là, moi, je suis pas du genre à avoir le meilleur motif non plus, donc dire le cinéma est mort, c'est vrai que ça fait... Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu parlais des années 50, 80, le streaming, mais en fait, finalement, presque depuis sa création, le cinéma a été confronté à ces crises-là, puisque...
Le passage du muet au parlant.
Ouais, ce que j'allais dire, quand il a été... Il y a des gens qui disent, mais n'importe, ces gens-là, ils gesticulent à l'écran, mais ils ne savent pas parler. Après, il a fallu passer à la couleur. Mm. Et quand tu vois un film aujourd'hui qui a 70 ou 80 ans, Chantons sous la pluie, c'est déjà ça le sujet et la préoccupation.
Ah, mais en gros, tous les 30 ans, il y a une crise.
Mais c'est ça, en fait.
Année 20, année 50, année 80, année 2010.
C'est ça. Ouais. La prochaine, bon, voilà. Ouais. Non, mais ça m'intéressait d'avoir ton avis, puisque c'est vrai que... Mais tu parlais du terme de passeur que je trouve très intéressant, et finalement, peut-être que... Ça rejoint peut-être quelque chose dont on parlait avant, c'est-à-dire que dans un monde où c'est quand même ça maintenant, où tout est contenu, où tout est image, où même chacun peut être un critique dans son coin, dans sa chambre, finalement, peut-être que les journalistes spécialisés et les critiques sont pas tant, j'allais dire, dignes d'être empaillés, que leur rôle reste à réinventer, finalement, à faire un petit peu... alors j'allais parler d'évangélisation comme ce que tu fais sur les réseaux, c'est pas tout à fait ça, mais en tout cas, enfin, pour avoir vu, c'est vrai que quand tu fais des posts sur je pense à notamment quand tu parles de gens comme Fritz Lang, Julien Duvivier, c'est vrai qu'il y a quand même cette idée là de passage de témoin et même de pédagogie.
Oui, c'est mon but, mais je fais ça de façon très naturelle, et parce que j'ai le temps en ce moment. Mais effectivement, je pense que j'ai l'impression que c'est utile, que ça intéresse les gens. Je le vois sur les réactions, sur mes différents posts. Et oui, je pense que c'est important de faire passer des messages, de faire revivre des cinéastes oubliés, de montrer que non, ce Marvel-là, s'il existe, c'est parce qu'il y a eu ça avant, s'il y a nanana. C'est intéressant parce que tout n'est... Mais on croit tous, chaque génération croit qu'elle a inventé l'eau chaude. Donc elle a l'impression, ouais, c'est génial, c'est nouveau. Et puis en fait, non, tu te rends compte que non. Et tout n'est qu'un éternel recommencement. Et le cas Tarantino est exemplaire de ce point de vue-là. C'est le cinéaste du ripollinage et de la réinvention de ce qui a déjà existé. Donc c'est presque un symptôme de l'époque. Voilà, c'est le symptôme de l'époque. Comme tu dis, cinéaste sampleur, comme le hip-hop qui a pris le pas sur le rock, voilà. C'est...
Exactement. Alors, la transition est toute trouvée pour parler de ton premier roman, Noir sur Blanc, puisqu'il y a pas mal de choses qu'on vient d'évoquer, notamment l'aspect cyclique, notamment, enfin, plein de choses qui évoquent ce que tu racontes. Donc, ça s'appelle Noir sur Blanc. Tu l'as sorti cette année, il me semble.
Oui, en début d'année.
Au début de l'année,
ouais.
Aux éditions Aciel,
il me semble.
Donc, c'est... Plusieurs choses. C'est la radioscopie d'une génération, la tienne. C'est aussi le récit d'une époque charnière, les années 80, puisque en fait, le personnage principal qui s'appelle Pascal, en fait, on le voit, on découvre sa vie et son adolescence à partir de ses 12 ans. Et finalement, des premiers. C'est un roman d'apprentissage, on peut le dire comme ça.
On peut dire ça, ouais, tout à fait.
Pas mal de choses, y compris. Qui va apprendre, donc y compris la cinéphilie, y compris les premiers émois amoureux et sexuels. Comment t'étais venu, après avoir écrit pendant 23 ans et un peu plus, avoir été journaliste pendant tout ce temps, comment t'étais venu l'idée justement de ce roman?
Ça m'est venu après une petite crise personnelle identitaire, etc. Et puis après un petit problème de santé, et où je me suis dit, au fond, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je vais laisser derrière moi, etc. Parce que tous les gens qui bossent dans les médias ont un petit ego surdimensionné, etc. Donc j'échappe pas à la règle, je pense. Et alors le journalisme est une façon de valoriser ça. Mais l'écriture en est une autre. Et je pense que tout le monde qui a bossé dans l'écrit a toujours rêvé, même s'il ne l'avoue pas publiquement, a toujours rêvé d'écrire un bouquin. C'est une marotte qui est très française.
Bien sûr, ouais.
Voilà, un bouquin de cinéma ou de fiction. Et beaucoup de journalistes ont écrit beaucoup de bouquins de cinéma, d'ailleurs. Quasiment tous ceux que je connais ont écrit des bouquins de cinéma.
C'est plus souvent la règle que les questions. C'est même assez rare, ceux qui ne le font pas.
Et la fiction, en revanche, c'est plus rare. Et moi, très bizarrement, alors que j'adore le cinéma de patrimoine, notamment, que j'ai vu des tonnes et des tonnes et des tonnes de films.
Oui, c'est
là,
pour ça que tu mets en avant, d'ailleurs.
Que je mets en avant le patrimoine. Je pense que je masterise un peu sur la question, donc je pourrais écrire sur le cinéma. Mais il se trouve que j'ai des envies de fiction. Alors que je pensais ne pas avoir d'imaginaire, etc. Il y a un pote qui m'a demandé ça. Il m'a dit « Oh putain, moi j'arriverai pas, j'ai pas d'imaginaire. » J'ai fait « Mais je pense ne pas avoir d'imaginaire, mais je serais incapable d'écrire Harry Potter, par exemple. » Mais j'ai des idées comme ça qui me viennent. Et bon, là, en l'occurrence, pour Noir sur Blanc, c'est un peu plus simple parce que c'est inspiré de ma jeunesse propre. Et donc, en fait, ça m'est venu assez naturellement, en fait, cette idée de récit semi-autobiographique avec beaucoup de fiction, notamment dans le dernier tiers du bouquin, d'accord, où ça part vraiment dans des trucs un peu délirants, j'allais dire. Mais en gros, c'est inspiré de ma jeunesse en banlieue. J'ai grandi à Argenteuil, banlieue malheureusement célèbre pour la délinquance ou pour les choses comme ça. C'est la fameuse ville où Sarkozy a voulu passer le Karcher, a voulu passer le Karcher sur la dalle. Donc moi, j'ai grandi dans les années 70 dans une ZUP, donc dans un HLM, entouré de Noirs, d'Arabes, de Blancs, de Portugais, de bidules, de machins. Une mixité qui fonctionnait très bien, le vivre ensemble fonctionnait très bien à cette époque-là. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant aujourd'hui avec tout ce qui se passe, la fracture sociale, le vivre ensemble qui n'est.
L'aspect identitaire dont tu parlais.
L'aspect identitaire, communautarisme, etc. Moi, ça n'existait pas de mon temps. Tout le monde vivait ensemble en bonne entente et c'était génial. Et moi, il se trouve que dans mon parcours de vie, en première et en terminale, donc ça ne correspond pas vraiment aux années que je décris dans le livre, mais en première et en terminale, j'ai été très pote avec un garçon noir qui était plus âgé que moi. Et qui me fascinait, littéralement. J'ai été frappé du syndrome un peu comme dans Les Blancs ne savent pas sauter, où t'as Woody Harrelson qui essaye de jouer au basket alors
avec
que c'est
avec
le Sainte-Sain et tout le monde se fout de sa gueule parce que c'est un blanc. Et moi, c'était l'inverse. J'étais fasciné par mon pote, quoi. S'il m'écoute, je l'embrasse parce qu'on se voit, on est toujours resté en contact.
Super.
Et voilà, c'était mon modèle, quoi. C'était vraiment mon modèle. Et donc moi, je rêvais d'être noir. C'était le premier titre du bouquin. C'est « J'aurais voulu être noir ». Et ce qui est un peu paradoxal et qui peut paraître très ambigu aujourd'hui, mais c'était mon cas, voilà, c'était comme ça. Et donc, j'ai traîné avec une bande de noirs, comme ça, pendant 2 ans à peu près. J'étais vraiment le seul blanc dans la bande, plus peu ou prou. Et j'en ai conservé un souvenir très fort, ça a duré 2 ans, et j'en ai conservé un souvenir vraiment très fort. Et on partageait les mêmes passions pour le sport, pour la musique, le funk en l'occurrence, qui est très présente, qui est très présente dans le bouquin, et que j'aimerais, comme j'ai écrit un scénario tiré du roman, j'aimerais l'entendre sur un écran. Ça serait un kiff. Ça serait un gros kiff.
Oui, c'est beaucoup de référence à, enfin, il y a Earth, Wind & Fire, Rick James,
voilà, Cameo, c'est voilà. Et c'est faut savoir que c'est quand même la base du hip-hop et la base de la musique d'aujourd'hui, quand même. C'est de là que ça vient. Et les plus grands, d'ailleurs, pour les plus grands vendeurs de disques à l'époque étaient noirs, c'était Michael Jackson, Prince, Earth, Wind & Fire, Kool & The Gang, c'était énorme. Et on l'a un peu oublié. Et le funk, c'est vraiment, c'est 20 ans à peu près d'histoire, années mi-60 et mi-80. Je suis aussi un peu expert là-dessus, j'avouerai. Et donc, c'était vraiment, c'est vraiment un roman que j'ai écrit avec un pur plaisir d'écriture. Et l'exercice, surtout, pour répondre à ta question originale, l'exercice de l'écriture romanesque, j'ai trouvé ça super excitant, j'ai trouvé ça très différent de l'écriture journalistique. Moi, je suis pas un journaliste qui est réputé pour être un styliste ou pour être une plume, etc. Et j'ai découvert en écrivant le roman, en devenant un autre quelque part, que j'avais un pouvoir, non pas de devenir subitement un énorme styliste. Je pense que j'ai une écriture assez simple, assez directe et on va dire, bah, populaire, comme ce qui me ressemble et ce que j'aime, accessible, voilà. Et l'idée, c'était d'avoir une écriture justement assez musicale, assez rythmée, assez enlevée.
Ce qu'on appellerait le flow dans le rap, justement.
Exactement, pour pas que le lecteur s'ennuie. Et je pense, d'après les retours que j'ai, que le lecteur s'ennuie pas.
Non, je confirme, on s'ennuie pas. Alors donc, justement, c'est ça, tu touches à un point qui est intéressant. À partir du moment où tu t'attaquais à une histoire qui était semi ou en partie autobiographique. Mmh. Est-ce que justement l'idée c'était de se dire je pars avec une idée assez précise des rebondissements de ce que je vais raconter, et finalement est-ce que c'est ça qui t'a laissé un peu plus de latitude et qui t'a permis de te concentrer un peu plus sur le style et de le privilégier? Comment c'est venu?
Alors écoute, je sais pas,
je t'avais des influences d'ailleurs?
Non, alors moi j'aime beaucoup, et puis les gens sont étonnés par la crudité, on va dire, de certains passages.
Ouais, même là, parce que c'est ce que je le disais ouais, moi, de façon moins crue et assez euphémique, mais c'est un adolescent qui a entre
12 et 15 ans, voilà.
Donc les premiers émois sexuels,
la libido, etc.
Voilà, c'est ouais, ça commence à le chatouiller, ouais, pour le dire comme ça. Et c'est vrai que ça, c'est des choses que tu racontes. Moi, ça m'a rappelé un petit peu, alors peut-être tu vas me dire si c'était influence, mais un peu comme quand tu lis du John Fante, c'est un petit peu la même.
Alors j'allais pas te lire celui-là, moi j'allais plutôt te dire, alors toute modestie gardée, hein, parce que Philippe Roth. Oui, Philippe Ross, voilà. C'est, moi, je suis un grand fan de Philippe Ross, qui a toujours parlé de lui dans ses livres, et de façon très décomplexée.
Ouais. Y compris de sa vie sexuelle.
Voilà. Alors moi, il se trouve que dans la vie, je suis un garçon, tous mes camarades pourront te le dire, très décomplexé et très direct. Et du coup, mon roman me ressemble, je pense. Mmh. Quoi. C'est-à-dire que j'écris, voilà, j'écris sans filtre. Je n'ai jamais eu peur du ridicule, ni de la critique, ni du commentaire. Et c'est vraiment des choses, je suis vraiment très imperméable à ça. Après, je ne te dis pas que si tout le monde avait trouvé ça nul et avait défoncé le roman, je serais joyeuse.
Mais ce n'était pas le cas. Donc,
mais ce n'était pas le cas. Mais ça m'a surtout, ça, oui, ça m'a donné beaucoup de confiance. Mm. Parce que ce que je n'ai pas dit au début et ce qui m'habite et ce que je dis dans le roman d'ailleurs, c'est que j'ai toujours eu un sentiment d'illégitimité,
d'imposture, ouais,
d'imposture, voilà, ouais, d'usurpation, de je suis quand même le mec qui a commencé au Courrier et qui est devenu journaliste à Première, quoi. C'est la réalité, c'est ça. Et encore une fois, je viens d'un milieu où il y a pas de goût pour la culture, quoi. Je peux pas le dire autrement. Donc j'ai toujours eu du mal à dépasser ça et me dire que je pourrais devenir romancier ou auteur, puisque c'est ce à quoi j'aspire. Ça ne pourrait pas m'arriver, c'était pas possible. J'étais même pas autorisé à y croire.
Ouais, à y rêver, quoi.
Il se trouve que le chemin de l'édition du roman a été pavé d'embûches, comme toute. C'est un peu l'histoire de ma vie, en fait. Moi, je suis un garçon qui a tout démarré très tard. Je suis rentré dans la vie active tard. Je suis devenu journaliste assez tard, finalement, à 25-26 ans. Je suis entré à Première, j'avais quasiment 30 ans. J'écris mon roman, j'ai dépassé les 50 ans. J'ai envie de faire un film à mon âge, à mon avis, ami producteur, si vous m'entendez. Il va falloir avoir des coronesses, quoi, si j'ose dire, parce que au moment où on parle d'inclusion, le white male de 50 ans, il n'a pas trop. Donc, j'ai vraiment un profil, j'allais dire, qui était normal il y a 10 ans et qui aujourd'hui est atypique. Je m'attends à tout et à rien parce que mon parcours de vie me démontre qu'il n'y a pas de règles, que rien n'est fixé. Et je dois dire qu'en fait, ce qui a été aussi déclencheur, ça a été mon licenciement de Première.
On n'en a pas parlé jusqu'ici, ouais, on a parlé encore une fois de façon un peu euphémique. Je ne voulais pas l'aborder avant que toi tu en parles.
Oui,
mais c'est toujours des sujets un petit peu épineux.
En fait, ça a été une intense douleur et remise en question. Parce que ça s'est passé dans des conditions dont je tairai les détails, mais ce n'était pas très sympathique. Depuis l'année et demie qui s'est écoulée, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Il n'y a plus de boulot dans la presse. Dans le cinéma, j'ai essayé, j'ai été écouté, on m'a reçu, on m'a parlé, etc. Mais j'ai bien senti que le secteur était fragile, était timide, était au bord de l'implosion. Et voilà, j'arrive au pire moment dans le... au pire moment de l'histoire de l'industrie et de la presse et du cinéma. Donc, se dire qu'on va, à mon âge, réussir à percer en tant qu'auteur et une vraie gageure, je ne suis pas persuadé d'y arriver. Tout m'indique que je ne vais pas y arriver. Mais en tout cas, je me bats, je me suis toujours battu et voilà, je vais tenter d'y arriver.
D'accord. Et justement, oui, c'est ce que j'allais. Tu as un petit peu répondu à la question, mais j'allais t'interroger sur tes projets sur lesquels, puisque tu le disais, le roman Noir sur Blanc est sorti cette année avec une. Je crois que tu as bénéficié d'un assez bon bouche-à-oreille, d'une bonne réception qui t'ont donné, comme tu disais, des raisons d'être confiant. Les projets, sans trop en dévoiler, ou de ce que tu peux nous dire pour l'instant, les projets sur lesquels tu travailles, c'est quoi?
Bah alors, j'ai adapté le roman en scénario. D'accord. Que je présente depuis un an ici et là, avec plutôt une bonne réception de ceux qui le lisent, parce que tout le monde ne le lit pas malheureusement. Y a des téléphones qui ne sonnent pas, voilà, donc c'est pas évident. Y a eu des choses, j'ai un peu travaillé avec un producteur au printemps. Finalement, ça n'a pas abouti, mais bon, ça c'est l'histoire. Je sais que c'est des temps longs, qu'il faut tomber sur la bonne personne au bon moment. Il faut que les gens lisent. J'incite vraiment les gens à lire parce que je ne parle pas seulement en ce qui me concerne. Mais, lire tout court parce qu'ils passent peut-être à côté de choses qui valent le coup. Moi, je pense que mon scénario, j'en suis à la V7, V8. Je l'ai énormément bossé, rebossé, retravaillé. J'ai été bien conseillé par... encore une fois, cet ami prod, des amis scénaristes, etc. Et je pense que ça tient le coup. C'est assez différent du roman.
C'est ça que j'allais te demander, si tu t'en éloignais.
Mais c'est marrant. Puisque c'est
le roman, en fait, est sans rien divulgâcher, est raconté quasiment exclusivement sous la forme d'un monologue.
Oui, c'est une chronique, c'est un récit. Ouais, voilà. Monologue intérieur, c'est pas mal. C'est un récit, il y a peu de dialogues, il y en a surtout à la fin. Et le challenge a été justement d'inventer des dialogues, donc de réinventer ou d'inventer des situations, de créer,
faire parler les personnages,
voilà, de créer des dialogues et surtout de scander le récit pour que ça soit dynamique et cinématographique. Donc ça a été un vrai, vrai gros boulot. Je pense que ce que j'en ai tiré tient la route. Mais après, c'est un scénario sans star fatalement, puisque c'est les stars, c'est des ados. Il n'y a que les second rôles qui sont possiblement tenus par des adultes. Donc je sais que c'est un projet qui est compliqué à vendre. Je sais que me vendre comme réalisateur du projet, en plus, c'est difficile, même si moi je suis prêt à n'être que scénariste. Je constate que c'est dur de toucher les gens, même si on connaît mon nom, même si on me répond quand j'appelle, ou voilà. Mais c'est dur d'agripper les gens, quoi, parce que c'est a priori un petit film fragile sur le papier. C'est une chronique de l'adolescence dans les années 80. Mais j'observe par ailleurs qu'il y a beaucoup de films sur les années 80 qui sortent, que la nostalgie, ça fonctionne quand même toujours à plein.
Je pense notamment à... Ça m'a un peu rappelé, là encore, mais c'est un compliment, évidemment, Armageddon Time, qui est sur un sujet assez proche.
Mais oui, oui, oui.
Qui se passe à la même période.
Je ne l'ai pas vu, c'est sur les années 80 aussi.
Et sur une émancipation. Il y aura beaucoup de... Que ce soit dans la période, et ça parle aussi de choses dont on parlait, comme l'émergence de la culture hip-hop. À ce moment-là, ça se passe... On voit en direct la première élection dans le film de Reagan.
D'accord.
Donc, ça se passe à ce moment-là. C'est un tournant un petit peu aussi pour les États-Unis. Et même si on remonte un peu le temps, sorti ces années, je pense notamment à Licorice Pizza, qui était sur un sujet assez proche. Il y a eu aussi des récits autobiographiques de la part de Paul Thomas Anderson et James Gray.
Il y a eu Les Magnétiques en France sur les années 80, qui a eu le César.
La libéralisation de la
bande, de la bande des FM, radios, dont je parle dans le bouquin. Il y a eu le film de Hertz, de Michael Hertz avec Charlotte Gainsbourg, qui est aussi...
Les passagers de la nuit, ouais. Ça se passe aussi
dans les années 80 et dans la radio. Donc j'observe qu'il y a quand même un... Alors les années 80, la hype n'est jamais descendue.
Oui, c'est ça que j'allais te dire.
C'est dingue.
On parle pas de cinéma, mais en ce moment, il y a une très belle expo au Musée des Arts Décoratifs sur les années 80 et sur un petit peu...
Mais tu sais pourquoi ?
Non.
La hype n'est jamais retombée. C'est parce qu'en fait, les années 80, c'est les années de la pop culture. C'est les années de... Même si Spielberg, c'est un peu avant, Les Dents de la Mer, c'est 75. Amblin, c'est les années 80. Michael Jackson, même s'il a fait des albums avant, c'est 82. Prince, c'est les années 80. Le clip, c'est les années 80. Thriller, c'est les années 80. Donc,
MTV.
C'est MTV, c'est la VHS, donc la première consommation à la maison. de films et de produits filmés. Donc les, et la variété dans tous les tubes de l'époque français, même si moi j'aime pas ça, mais qui c'est passe resté, toujours régulièrement.
Oui, je pense, il y a notamment un film qui est sorti il n'y a pas longtemps, L'Innocent de Louis Garrel.
Ouais.
Et les titres de la BO, c'est ça, c'est des t'as ouais. Pour le plaisir, ouais, d'Herbert Léonard, ouais. J'allais dire du Gérard Lenormand, mais non, c'était Gérard Blanc.
Ouais.
Et justement, la question est un peu provoque, mais tu dis c'est des années qui sont restées un peu iconiques aussi. Moi, je suis. Alors, quand il s'agit de récits autobiographiques, comme l'ont fait, par exemple, Licorice Pizza ou Armageddon Time, c'était le cas, mais est-ce que aussi, moi, des fois, il y a une question que je me pose, je me dis est-ce que finalement de se retourner comme ça vers un passé un peu idéalisé, fantasmé, c'est pas quelque chose aussi d'assez pratique quand le monde autour de nous s'écroule?
Écoute,
c'est la tentation de la nostalgie.
Ouais, moi en
je
vrai
dis pas que c'est ton cas,
ouais.
Mais c'est...
Non, mais moi
c'est vrai que c'est un phénomène de société, cette, ouais. cette addiction même soft qu'on
on, a sait, on sait qu'en temps de crise le refuge chez les, les valeurs refuge chez le passé, la nostalgie, etc. Moi il se trouve que j'ai expérimenté ces années-là, je les ai vécues, ouais. Donc tout ça me fait doucement rire ceux qui disent que les années 80 c'était génial, etc. Mmh. Moi j'ai quand même grandi avec le sida, donc une vie sexuelle, flippante. Il y avait quand même encore la guerre froide, plus ou moins. Il y a eu Tchernobyl à la fin des années 80. Il y avait plein de trucs assez anxiogènes aussi. Il y avait le chômage de masse qui bien était important. Donc c'était pas des années quand tu les as vécues. C'était pas.
Donc tu les idéalises pas.
Voilà. Il y a eu le traumatisme de la mort de Coluche, de Balavoine. Il y a eu des trucs qui ont vraiment marqué les années 80. D'ailleurs, je dis que les années 80 sont mortes en 86 avec la mort de Coluche et de Balavoine notamment. Et donc, c'est effectivement, on idéalise le passé. Mais en revanche, effectivement, il n'y avait pas autant de crispation. La fameuse fracture qu'a dénoncé Chirac, la fracture sociale qu'il a dénoncée en 1995, n'existait pas encore vraiment, ou en tout cas n'était pas étalée sur la place publique comme ça. En banlieue, ça a vraiment commencé un petit peu à merder, j'allais dire, à la fin des années 80, plutôt, début des années 90.
Avec jusqu'aux émeutes qu'on a connues.
Voilà, en banlieue. Et donc, c'est vrai que c'était encore un temps, il y avait un peu un héritage d'un passé un peu glorieux, De Gaulle et compagnie, Et puis, la génération Mitterrand, c'était quelque chose de très palpable, de très aujourd'hui, qui se reconnaît dans des politiques, qui se reconnaît dans des hommes politiques ou femmes politiques.
Dans l'identification, Et donc, tu commences par ça. Tu commences par les
ouais, je parle de tout ça, l'élection de Mitterrand. Ouais. Le film commence par ça, l'élection de Mitterrand.
Mais tu parlais des magnétiques, c'était déjà le cas.
Ouais.
Et je me souviens à cette image un peu d'Épinal, on voit le visage de Mitterrand.
Pixelisé.
Voilà, ouais. C'est ça, là, c'est pareil, en une image, on est transporté.
C'est des moments très forts. La bande FM, c'est un truc de dingue dans ma génération.
On se rend pas bien compte.
Vous vous rendez pas compte.
C'est ce qu'on est en train de faire.
Mais
le monopole d'État, c'était un vrai.
C'était un truc de dingue. Et en 80, moi je me souviens, il y a des radios qui ont duré un an. Il y a une radio qui s'appelait Carbone 14.
Bien sûr. Jean-Yves Lafesse, il me semble, qui a fait ses débuts sur Carbone.
C'est possible, je me souviens plus. Mais bon, bref, ça a duré un an et demi, deux ans.
Il y avait même des radios pirates
en plus à l'époque. Et pourquoi ça a duré seulement un an et demi, deux ans? C'est parce que ils organisaient des partous ou je sais pas quoi. Il y avait des trucs un peu chelous. Mais c'est là où j'ai découvert ma première émission funk. C'est aussi comme ça que j'ai été biberonné au funk. Il y avait des radios qui s'appelaient Radio Show, Radio 7, qui n'existe plus d'ailleurs, je crois. Toutes ces radios-là avaient leurs émissions dédiées au funk, avec lesquelles j'ai grandi, que j'enregistrais avec mes cassettes audio en direct. C'est des moments. C'est vrai qu'on a perdu. Pareil, l'érotisme, l'image. Aujourd'hui, on a tous les jeunes garçons, s'ils le veulent, peuvent voir des images porno assez facilement. Nous, à l'époque, c'était Lui, New Look, Penthouse, des magazines qu'on se procurait de façon illégale. Donc il y avait un piment, il y avait un frisson. J'en parle dans le livre, dès qu'il y avait une image érotique dans un film. Je parle de Laurent Antonelli que j'ai découvert dans L'Innocent de Visconti,
des films comme
Belle de jour, où il n'y a pas de nudité mais où il y a l'érotisme, l'érotisme est prégnant. Et tout ça, c'est des images qui te marquent, qui te forgent ouais, et qui ont forgé ma cinéphilie de façon souterraine, comme je dis dans le livre, parce que c'est évidemment pas des films qui m'intéressaient autrement que pour ça.
Ouais, il y avait cet aspect, il y avait cet aspect utilitaire, et finalement, voilà, en voyant ces films-là, ouais, tu finis par te prendre.
Et puis, dans les années 80, pour finir, tu as eu l'émergence de la 5, toutes ces l'explosion des chaînes de télévision aussi, Canal Plus, ouais, évidemment. Donc c'était et Alain était l'héritier de tout ça. Alain Kruger, pour revenir à lui, c'était l'héritier de l'esprit Canal.
Ouais.
Alain d'ailleurs, il a
Pierre Lescure,
voilà, Alain il a bossé pour Canal. Après, c'est lui qui est à l'origine du cercle, l'émission Le Cercle. Okay. Voilà. Et donc c'était vraiment il y avait vraiment un esprit particulier que moi j'aimais, et qui se retrouvait dans le journal Première, qui était d'ailleurs donc effectivement le seul journal que je lisais, moi.
D'accord.
Avant d'y aller. Donc ça a été un miracle que je travaille à Première, en fait, pour revenir à notre première conversation.
Ouais.
Quelque part, ouais, j'ai accompli quand même pas mal de rêves, mais sans vraiment le vouloir, en fait. C'est vraiment le fruit du hasard et puis du travail aussi, parce que si j'ai été gardé à Première, c'est que...
Ça n'est pas un hasard.
Voilà, donc bon... mais quand même, il y a un peu de chance, mais comme dans tout parcours, je pense,
de rencontres.
Et pour ce qui est du cinéma, le théâtre aussi, puisque j'ai aussi écrit une pièce de théâtre là, que je suis en train d'essayer de faire lire et de montrer, et de faire lire plutôt,
de monter,
je sais pas trop, mais de faire lire déjà pour commencer. Ça, c'est un monde que je connais pas du tout, donc je suis obligé de forcer les portes, de rencontrer les gens pour qu'on m'explique. Et j'espère y arriver. Il y a aussi un deuxième roman qui est dans les tuyaux et qui est en lecture aussi. Donc, pas mal de projets.
D'accord, très bien. Et on arrive malheureusement bientôt au terme de l'émission. Je vais te poser la question, la sempiternelle et traditionnelle question que je pose à tous mes invités. Est-ce que tu peux partager avec nos auditeurs et nos auditrices une œuvre culturelle qui te tient particulièrement à cœur et que tu souhaiterais mettre en avant ?
Alors moi, quand on me demande quel est ton film préféré de tous les temps, etc., j'ai une réponse qui est vraiment très, très subjective, parce que c'est objectivement pas le meilleur film de tous les temps. Mais c'est le film que j'ai sans doute le plus vu, et c'est le film qui rejoint mes préoccupations que j'ai défendues dans mon mémoire de maîtrise sur les Marx Brothers, etc., c'est-à-dire des univers un peu surréalistes, en peinture aussi, j'aime tout ce qui est surréaliste, etc., et j'aime Buñuel, j'aime des gens comme ça, j'aime Magritte en peinture, j'aime certains Dali, etc., Max Ernst et tout ça. Et en cinéma, il y a un réalisateur que j'affectionne particulièrement, c'est Bertrand Blier, dont les films ont peut-être un peu vieilli pour certains, mais quand même, globalement, ça tient plutôt bien la route, de mon point de vue. Et il y en a un que j'affectionne en particulier, c'est Buffet froid, qui est un film assez racontable, qui raconte les pérégrinations nocturnes de Gérard Depardieu, qui tue des gens dans des zones périurbaines. Ça a été tourné à La Défense et tout ça. Qui est un film complètement atypique dans le cinéma français. On n'a jamais vu ça, on reverra jamais ça.
Ça n'a jamais été fait avant.
Ça n'a jamais été fait d'avant ni depuis, parce que je pense que de toute façon, aujourd'hui, ça ne marcherait plus, ce genre de film-là. Il n'y aurait plus de spectateurs pour Trop belle pour toi, pour Tenue de soirée, Buffet froid, que sont mes films préférés de lui. J'encourage les gens qui ne l'ont jamais vu à le regarder, parce que c'est une proposition qui semble tellement sortie de nulle part que quand on la voit, alors on peut avoir un rejet, hein. Il y a des gens qui détestent Buffet froid. Mais moi, je sais que j'avais un pote, par exemple, qui connaissait les dialogues par cœur, parce que les dialogues sont savoureux. Et je me souviens de vacances où sur la plage, il disait le film en entier. Et c'est vraiment un film qui provoque ça chez le spectateur.
Des réactions,
qui aime ça, c'est addictif, et c'est des réactions vraiment passionnelles, quoi.
Ouais.
Mais il faut être sensible à l'absurde, il faut être sensible au nonsense, comme disent les anglo-saxons, au surréalisme, à toute cette école-là. Et Bertrand Blier, pour le coup, est le meilleur enfant au cinéma de Luis Buñuel. J'aime aussi beaucoup les films. J'aurais pu citer Le Charme discret de la bourgeoisie, qui est peut-être le film étalon pour Blier de ce point de vue-là.
C'est vrai, effectivement. Merci beaucoup, Christophe. Merci beaucoup pour nous avoir raconté ton riche parcours, pour avoir partagé avec nous tout ça.
Merci à toi, Robin, de m'avoir invité.
Merci d'être venu dans l'émission. Très bonne soirée à tous et à toutes.